Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi
Ainsi
soit-il.
soit-il.
Faites, Dieu Tout-Puissant, qu'arrivé au terme des fêtes pascales, il nous soit donné de les perpétuer dans la conduite de notre vie. Mes très chers frères, nous voici arrivés au terme de l'octave de la fête de Pâques. Nous sommes encore, et pour un certain temps, dans le temps pascal. Mais désormais, nous nous éloignons progressivement du jour de la résurrection glorieuse de notre Seigneur Jésus-Christ pour nous diriger vers la fin du monde, qui est représentée par la fin de l'année liturgique. Elle est encore très loin, nous ne sommes qu'à peu près au milieu de l'année liturgique, mais il se trouve que nous devons comprendre que cet oraison que vous avez, par laquelle nous avons commencé ce sermon, cet oraison de la messe d'aujourd'hui, premier dimanche après Pâques, ou dimanche in albis, dimanche de Quasimodo, eh bien, nous indique qu'aujourd'hui c'est l'octave de la fête de Pâques, l'octave de la fête de Pâques se termine, nous continuons, mais il va falloir maintenant exercer non plus nos sens directement, notre intelligence directement, parce que jusqu'à présent nous avons été dans la joie de la gloire du ressuscité, mais il va falloir que nous exercions notre mémoire pour nous souvenir de tout ce que nous avons vu, de tout ce que nous avons vécu, et pour le conserver dans notre cœur comme la très sainte Vierge Marie. L'oraison que nous venons de citer, donc, nous fait demander à Dieu que par sa grâce, nous persévérions dans les dispositions intérieures que le Christ ressuscité nous a méritées. Et nous avons trois choses à voir, et aujourd'hui avec l'aide du Saint-Esprit. La première, c'est comment fêter dignement Pâques et comment conserver ces grâces dans notre vie. Ça sera un bref commentaire de l'oraison collecte d'aujourd'hui. Le deuxième point que nous aurons à aborder, c'est comment Dieu nous prévient dans notre devoir de persévérance. Et troisièmement, comment la victoire sur le monde, c'est notre foi. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
Presta quaesumus omnipotens Deus, faites Dieu Tout-Puissant, ut cui Pascalia festa peregimus, afin que, faites que, arrivé au terme des fêtes pascales, ec telargiente moribus et vita teneamus. La traduction que j'ai sous les yeux traduit ainsi, il nous soit donné de les perpétuer dans la conduite de notre vie. C'est une bonne traduction, mais nous allons voir qu'on peut être un peu plus précis. Pendant toute cette semaine, la semaine qui vient de se passer, nous avons vécu dans le bonheur du triomphe de notre Seigneur Jésus-Christ sur la mort. Chaque jour, à chaque messe, chaque jour, nous a été donné une preuve, un témoignage de sa résurrection. Nous avons vu les pèlerins d'Emmaüs, nous avons vu les saintes femmes, nous avons vu Sainte Marie-Madeleine, nous avons vu les disciples, et puis nous avons déjà entendu Saint-Pierre prêcher la résurrection du Christ à la foule. Le soleil, nous disent les commentateurs liturgistes, le soleil a éclipsé tous les astres. Nous n'avons pas fait mention, nous n'avons pas célébré les saints, même en mémoire. Tous les saints sont, même si la fête de l'Annonciation tombait pendant l'octave de Pâques, elle serait déplacée. Pourquoi? Parce que le soleil éclipse les astres. Nous avons fêté notre Seigneur Jésus-Christ ressuscité, et c'est de notre Seigneur Jésus-Christ ressuscité que dépend la sainteté de tous, et à commencer par la sainteté de la très sainte Vierge Marie, sa mère. Nous n'avons donc fêté aucun saint, sinon le saint des saints, le seul saint, tu solus sanctus, dans le Gloria in Excelsis de la messe, eh bien, nous disons que notre Seigneur Jésus-Christ est le seul saint. Est-ce que ça veut dire que nous nions qu'il y ait d'autres saints? Ça signifie que s'il y a de la sainteté, s'il y a des saints, ils sont saints dans le saint. C'est lui le saint des saints, c'est lui notre Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Rédempteur, notre Dieu, le Fils de Dieu, le Fils éternel de Dieu, notre Sauveur. Bienheureux ceux qui vivent dans le temple de Dieu et qui peuvent, tous les jours de leur vie, être, dans la proximité immédiate des mystères de la religion. C'est un, mes très chers frères qui m'écoutez, c'est un très grand privilège que vous avez, que nous avons, de vivre ainsi dans la familiarité avec les choses de Dieu. Il ne faut absolument jamais que cette familiarité engendre une certaine lassitude ou une certaine négligence ne soyez pas négligents. Cessez donc, mes fils, d'être négligents, dit le Seigneur aux prêtres dans l'Ancien Testament. Et il le dit aussi aux prêtres et aux religieux du Nouveau Testament. Ne soyons pas négligents, nous avons un immense privilège qui est de pouvoir vivre au plus près de la liturgie. Et évidemment, mes frères, les laïcs qui entendaient ces paroles, ne vous sentez pas exclus. Disons simplement qu'il y a plusieurs demeures dans la maison du Seigneur, il y a plusieurs états, certains sont plus parfaits que d'autres, mais tous doivent se nourrir de la même manne spirituelle. C'est pour cela que les laïcs doivent méditer, si possible tous les jours, avec de bonnes lectures quotidiennes, pas des lectures simplement, mais de bonnes lectures de bons auteurs. Ils doivent méditer tous les jours et se nourrir autant qu'ils le peuvent et qu'ils le doivent de cette manne spirituelle dont les religieux, évidemment, sont nourris en premier, mais pas exclusivement. Alors nous avons, j'espère que autant les uns que les autres, vous avez suivi la beauté de l'enseignement de l'Église en cette octave de Pâques qui s'achève aujourd'hui. Mais évidemment, Saint Bernard nous dit « Les fêtes passent et les cupidités demeurent. » D'où l'oraison. Les fêtes passent et les cupidités demeurent. Les fêtes passent, elles nous ont éblouis, elles ont ravi notre cœur. Nous avons attendu ce moment tout au long du carême, même depuis la Septuagésime. Nous l'avons attendu de tout notre cœur, non pas comme nous le disions la dernière fois, non pas comme un soulagement sensible, sensuel, charnel, mais comme un symbole d'ordre liturgique de cette aspiration de notre vie tout entière qui nous fait tendre vers Dieu et vers les choses de Dieu et à la fin au salut et au ciel. Donc, ces fêtes ont été merveilleuses, mais les fêtes passent et les cupidités demeurent. Alors, penchons-nous sur l'oraison, mes très chers frères. Presta que sumus omnipotens Deus. Presta que sumus. Faites, s'il vous plaît. Omnipotens Deus, vous vous souvenez, je le répète juste pour vous rafraîchir votre mémoire, quand nous disons omnipotens Deus, nous parlons au Dieu de la grâce efficace. Nous parlons au Dieu auquel rien ne résiste. Nous prions ou nous adressons au Dieu auquel les cœurs les plus durs ne résistent pas s'ils décident de les toucher. Voilà la signification d'omnipotens Deus. C'est pour ça que bien souvent l'Église nous fait invoquer le Dieu de la grâce efficace. Presta quae sumus omnipotens Deus. S'il vous plaît, Dieu Tout-Puissant. Vous qui pouvez tout, et donc cela nous incite à penser que si nous allons demander au Dieu Tout-Puissant qui peut tout quelque chose, c'est que nous ne pouvons rien. Certainement rien. Ut, donc deux points, tout ceci. Qui pascalia festa peregimus. Alors, la traduction que j'ai soulignée dit « arriver au terme des fêtes pascales ». C'est vrai, mais ce n'est pas exactement ce qui est écrit. Ce n'est pas le contraire, mais « qui pascalia festa peregimus ». Nous qui avons accompli les festivités pascales. Il y a plusieurs façons d'accomplir les festivités pascales. D'abord, d'une façon générale, c'est l'accomplissement du devoir de pascal. Évidemment, cette année, bien entendu, à cause des événements, la plupart des chrétiens n'ont pas pu le faire, et ils étaient dispensés, évidemment, puisque à l'impossible, nul n'est tenu. Ce n'est pas un problème. Mais nous devons remplir nos devoirs religieux. Vous voyez, autant que cela dépend de nous, autant que cela dépend de nos forces, de nos capacités, de nos possibilités, nous devons remplir nos devoirs religieux. Ça, c'est pour le sens général de Peregimus. Ensuite, nous pouvons dire que nous avons préparé ces fêtes par une digne pénitence. Et c'est pour cela que, dans cette oraison, il est fait mention des fêtes pascales. Ces fêtes pascales que nous avons au Peregimus, c'est-à-dire que nous avons accomplies, nous les avons accomplies non pas sur le moment quand elles sont arrivées, mais nous les avons accomplies après les avoir préparées. D'où, encore une fois, je le répète, mes très chers frères, ça sera pour l'année prochaine, bien sûr, mais la nécessité de passer un bon carême. Vous allez dire, ça ne se commande pas, évidemment, je ne parle pas des événements extérieurs qui font qu'on est plus ou moins dans la gêne, plus ou moins dans le bonheur pendant le carême. Je dis qu'il faut préparer les fêtes pascales par un bon carême, par un carême qui, même s'il nous semble mauvais, c'est-à-dire pénible, dur, difficile, rempli d'épreuves, etc., mais est un carême passé avec Dieu, de telle sorte que nous puissions comprendre ce qui se passe aux fêtes de Pâques. Si nous ne nous préparons pas méticuleusement pendant le carême, pendant tout le carême, au moins le carême, à la fête de Pâques, à l'assistance à la fête de Pâques, alors nous sommes comme un, je ne sais pas moi, comme un verre, un verre d'eau, un récipient, qui néglige de se vider de la terre dont il est rempli, et qui arrive à un certain moment, où, qui est le moment où on verse de l'eau. On ne va certainement pas verser de l'eau dans un verre de terre, dans un récipient rempli de terre, parce que ça va faire de la boue et ça va gaspiller l'eau. Il faut que le verre se soit préparé, que le récipient se soit lavé, purifié, de telle sorte qu'au moment où l'eau, Pascal donc, arrive, il puisse être rempli et être un digne réservoir, un digne vase pour recevoir cette eau pascale, cette eau de la grâce. Donc vous voyez, nécessité, si nous voulons prier sincèrement et en toute vérité au Seigneur cette oraison collecte d'aujourd'hui, nécessité de s'être préparé à la fête de Pâques pour pouvoir réellement bien les remplir, bien l'accomplir. Ceux qui accomplissent, qui doivent accomplir ou réaliser les fêtes de Pâques, ce n'est pas simplement les prêtres et les servants et les religieux qui sont à l'autel et qui, effectivement, et qui sans lesquels les fêtes de Pâques ne pourraient pas être accomplies liturgiquement parlant. C'est eux, bien sûr, écoutez bien mes frères, mais en même temps, c'est aussi tout le monde. Tous les chrétiens qui assistent aux fêtes de Pâques sont unis au prêtre dans son sacrifice, de telle sorte que lorsqu'il se retourne et qu'il dit « Orate fratres, ut meum avestum sacrificium », etc., ils comprennent que c'est le sacrifice du prêtre, mais c'est aussi le leur, dans la personne du prêtre, qui agit en la personne du Christ, qui s'offre lui-même à Dieu le Père. Donc vous voyez, nous qui avons accompli Peregimus, ces fêtes pascalia, ces fêtes de Pâques, vous voyez, nous avons assisté, nous avons préparé ces fêtes par une digne pénitence, nous les avons méditées par l'amour de gratitude durant pendant toute l'octave. Vous voyez, on s'est préparé par un carême méticuleux, on a assisté à la fête de Pâques, et ensuite, pendant l'octave pascale, on s'est nourri des textes que l'Église nous donne, de telle sorte que notre foi puisse se nourrir et qu'elle puisse développer la seule attitude qui corresponde pour nous, pauvres créatures, à la grâce de Dieu, c'est l'attitude de gratitude. Dans gratitude, il y a grâce, ce n'est pas que nous faisons une grâce à Dieu, c'est que nous usons bien de la grâce que Dieu nous fait. Et c'est là où j'attire, par une sorte de parenthèse, mais à propos, j'espère malheureusement, mes très chers frères, sur le fait que la pratique religieuse n'est pas un acte de militance à la face du monde, que l'on provoque et que l'on défie. On ne se rend pas à la messe en des temps difficiles, disons, où la non-assistance à la messe est autorisée par les clercs. On ne se rend pas à la messe pour faire un bras d'honneur au système, que sais-je. Ce n'est pas cela, vous voyez. On va à la messe quand on le peut, quand c'est possible, et sinon, eh bien, on répand son cœur devant Dieu dans la solitude. L'assistance à la messe n'est pas un acte de militance à la face du monde. Vous voyez, pourquoi? Parce que l'acte de militance est déjà quelque chose de profane. C'est quelque chose qui a été inventé en modernité par des gens à tort ou à raison, peut-être à raison, ce n'est pas ça le problème, ce n'est pas du tout la question. Mais pour résister à quelque chose qu'ils estiment mauvais. Or, il se trouve que dans le cas des choses sacrées, les choses sacrées, lorsqu'elles sont utilisées à des fins temporelles, sont profanées. Alors ne profanons pas, mes très chers frères, ne serait-ce qu'en penser, l'assistance au sacré mystère de notre religion. L'assistance aux offices religieux n'est pas un acte de militance à la face du monde. Mes très chers frères, c'est un acte d'humiliation devant Dieu auquel le monde est totalement étranger. Je referme la parenthèse. Nous avons été cette année touchés par les grâces de Dieu, de telle sorte que chacun selon son rang, et j'espère que c'est vrai d'ailleurs, nous avons été touchés par les grâces de Dieu, et désormais, lors de ces fêtes pascales, et désormais, l'oraison nous fait demander à Dieu, eh bien, que, ayant accompli ces fêtes pascales, nous les poursuivions dans notre vie. C'est la suite. Mais avant, Mes très chers frères, avant, nous devons comprendre que l'oraison ne nous fait pas évoquer le temps qui passe de telle sorte que maintenant les fêtes sont finies et il va falloir passer à autre chose. Il se trouve que les fêtes sont finies parce qu'il faut bien que les choses temporelles aient une fin, mais nous demandons qu'elles perdurent dans notre cœur. Donc, avant de demander à Dieu qu'elles perdurent, nous demandons à Dieu, ou plutôt l'Église nous fait demander à Dieu, te largente. Qu'est-ce que ça veut dire te largente en latin? Ça veut dire avec l'aide de votre grâce efficace. Littéralement, ça veut dire vous étant généreux. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce que Dieu est généreux envers nous? Lorsqu'il nous accorde sa grâce efficace. Lorsqu'il ne nous livre pas à nos propres forces. Lorsqu'il ne nous donne pas une grâce si générale que nous pouvons y résister et la profaner et aller en enfer après avoir reçu la grâce. Il nous donne l'aide de sa grâce efficace qui empêche que les grâces liturgiques ne soient stériles pour nous. Vous voyez, le bon grain de la grâce tombe dans la bonne terre, il tombe dans les cailloux, il tombe parmi les épines, il tombe même sur la route, il tombe partout. Dieu donne sa grâce à tout le monde et tout le monde peut recevoir la grâce de Dieu ou peut la rejeter. Tout le monde peut la rejeter. Mais mes très chers frères, pour la recevoir et la garder, il nous faut une autre grâce, il nous faut la grâce efficace du Dieu généreux avec ses créatures. Donc c'est une grâce, c'est une générosité divine, c'est la charité de Dieu, c'est l'amour de Dieu pour nous, pour ses créatures. Cette générosité divine excite notre gratitude, nous l'avons dit, qui mérite un accroissement de charité, etc., de telle sorte que Dieu récompensant ses propres dons, il nous donne de mériter réellement par nous-mêmes, par un effort de notre volonté, une plus grande abondance de grâce par sa grâce. Vous voyez, c'est cela que signifie te largente, avec l'aide de votre miséricorde, par votre miséricorde, par votre générosité. Donc, faites Seigneur, nous qui avons, d'une manière et d'une autre, sanctifié et accompli ces fêtes pascales, faites Seigneur, dans votre générosité, donnez-nous la grâce de pouvoir, quoi donc, ec, donc ces fêtes, moribus et vita teneamus. Faites que nous puissions les tenir, teneamus, moribus et vita, par les mœurs et par la vie. Les mœurs, ici, si j'utilise une autre traduction un peu plus ancienne, c'est les habitudes. Et la vie, c'est l'existence chrétienne, la vie chrétienne. Que nous les tenions donc, que nous les conservions, que nous conservions la vertu, c'est-à-dire la force, l'esprit des fêtes de Pâques. Et quelle est la vertu, c'est-à-dire la force de la fête de Pâques? C'est la résurrection de notre Seigneur, c'est la puissance de la résurrection de notre Seigneur. Alors vous allez dire, c'est vrai, nous avons eu de très belles fêtes de Pâques, et j'espère m'en souvenir très longtemps. Ce n'est pas du tout ça qu'il est dit, mes très chers frères, ce n'est pas du tout ça dont il est question. Oui, nous avons eu de belles fêtes de Pâques, mais toutes les fêtes de Pâques sont belles. Il suffit de bien suivre la liturgie pour qu'elle soit belle. La liturgie traditionnelle de la Semaine Sainte, les fêtes de Pâques, l'ornement des autels, le passage du temps en violet, du temps de la Passion au temps pascal, à l'octave de Pâques. Tout ceci ne peut qu'impacter nos sens. C'est évident, c'est très beau. Nous passons des ténèbres à la lumière, bien entendu, mais ce n'est pas cela. Comment nous souvenir de l'essentiel, comment conserver, ou déjà pour le conserver, il faut le définir, comment définir l'essentiel des fêtes de Pâques, c'est la résurrection de notre Seigneur. La résurrection de notre Seigneur qui est la puissance de la résurrection de Dieu pour nous, et qui se traduit comment? Par la réalité de la mortification du vieil homme. Alors vous allez dire, oh ben ça recommence, on recommence les choses désagréables à entendre, on vient juste de finir Pâques, mais mes très chers frères, nous en avons déjà parlé avant. À quoi nous sert de faire l'effort de retenir l'essentiel, la quintessence, si j'ose dire, de la fête, des fêtes de Pâques, c'est-à-dire de la résurrection de notre Seigneur, notre Dieu et notre Seigneur, notre Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, si ce n'est pas pour se l'appliquer directement? Vous allez dire, on peut attendre un petit peu que le temps de Pâques soit, le temps pascal soit passé pour recommencer à se mortifier. Non. Pourquoi? Parce que la mortification, c'est l'engrangement, si vous me permettez l'expression, de la vertu de la résurrection de notre Seigneur. À quoi sert-il d'avoir du bois en hiver, si ce n'est pas pour le mettre directement dans la cheminée? Vous allez dire, mais le fait de l'avoir, c'est déjà pas mal. Oui, mais ça ne sert à rien, et vous pouvez mourir de froid à côté d'un tas de bûches, si vous ne mettez pas les bûches dans la cheminée. Vous pouvez aller en enfer si vous êtes, vous avez les yeux et les sens remplis de la beauté de la fête de Pâques, de la liturgie de la fête de Pâques. Vous pouvez très bien aller en enfer avec ce beau souvenir. Le seul moyen de conserver la quintessence des fêtes de Pâques, mes très chers frères, c'est d'appliquer directement la puissance de la résurrection à votre vie, à notre vie, et cela se traduit toujours, et ça commence par se traduire toujours par la mortification du vieil homme. Comment retenir les fêtes de Pâques par cette mortification du vieil homme? Eh bien, par les habitudes et par la vie, nous dit le raison. C'est-à-dire par la structure même de notre forma mentis, et ce n'est pas simplement une forma mentis traditionnelle, mais c'est une forma mentis traditionnelle pieuse. On peut très bien avoir une forma mentis traditionnelle et aller en enfer, hein. Il suffit de vivre avant la Révolution pour l'avoir. Bon, il faut être traditionnel, bien sûr, c'est le béaba, mais il faut être pieux. Et la piété, ce n'est pas quelque chose pour les bonnes femmes, ce n'est pas quelque chose pour les faibles, ce n'est pas quelque chose pour les enfants. La piété, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de prendre au sérieux ce que Dieu nous donne par le biais de l'Église, dans la liturgie, par la liturgie. On n'est pas pieux quand on a l'esprit traditionnel et qu'on ne mortifie pas le vieil homme. Parce que les mœurs et la vie ne sont pas les lieux où nous recueillons et où nous engrangeons et où nous faisons, nous mettons à profit la puissance de la résurrection. Vous voyez, on peut vouloir aller à la messe comme un acte militant, et passer complètement à côté, et pas uniquement, évidemment, on peut aussi venir à la messe d'une façon tout à fait pieuse et traditionnelle, et passer à côté des grâces, mais passer complètement à côté des grâces qui sont réservées lors des différentes fêtes. Vous voyez, si nous ne les retenons pas par nos habitudes et par notre vie. Alors vous allez dire, c'est, nous avons compris, je l'espère, mais comment faire? C'est difficile. Les fêtes de Pâques sont passées. Maintenant, nous retombons progressivement dans le monde. Si nous avions pu, nous serions venus tous les jours de l'octave, mais il y avait ceci, cela, le travail, le confinement, etc. Bon, d'accord, ce n'est pas un problème. Mais maintenant, nous retombons dans le train-train quotidien. Comment faire? Eh bien, je vais vous dire une chose, mes très chers frères, l'Église a tout prévu, elle va nous le dire. Regardez le verset alléluiatique. Au jour de ma résurrection, dit le Seigneur, je vous précéderai en Galilée. Alléluia. Vous allez dire, oui, mais ça c'est pour les apôtres, et puis notre Seigneur est au ciel maintenant. Les pères de l'Église, lorsqu'ils commentent cette parole de notre Seigneur, nous disent que, en réalité, si notre Seigneur nous précède en Galilée après sa résurrection, c'est-à-dire s'il nous précède en Galilée après les fêtes de Pâques, hein, pour l'actualiser, pour parler pour nous en tant que chrétiens, c'est que la Galilée représente, par son nom même, l'étymologie de son nom même, le monde dans lequel les chrétiens, auxquels les chrétiens n'appartiennent pas, mais dans lequel les chrétiens sont obligés de vivre de facto. C'est le monde mondain. Ça veut dire que les chrétiens vivent dans un contexte mondain, mais ça veut dire que le monde mondain nous entoure, et quelque préservé que nous en soyons, d'une manière ou d'une autre, il est toujours là, ne serait-ce que parce que sa racine est dans notre vieil homme. Donc, il nous précède en Galilée. Galilée, c'est un mot hébreu qui signifie quelque chose comme tourbillon, où ça désigne le monde sublunaire dans la philosophie d'Aristote, c'est-à-dire le monde de la génération de la corruption, le monde des cycles, le monde où tout recommence tout le temps, tout semble recommencer tout le temps, puis c'est aussi le monde où on tourne en rond sous un certain rapport, c'est le monde des retournements systématiques, et puis comme un prisonnier qui tourne en rond. C'est ça que signifie le mot Galilée, la racine du mot Galilée. Au jour de ma résurrection, dit le Seigneur, je vous précéderai en Galilée. Notre Seigneur apparaît à Jérusalem, mais il les précède en Galilée. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, ça signifie que la fin des fêtes de Pâques, comme nous le disions, n'est pas du tout synonyme de retombée du chrétien en lui-même. Notre Seigneur ne nous laisse pas à nous-mêmes, puisqu'il nous a ressuscités. Il nous a arrachés à ce que nous étions, il nous a mis dans sa réalité propre. Il nous dote de sa grâce. Il nous dote de sa grâce, mais il ne nous laisse pas à nous-mêmes même dotés de sa grâce. C'est-à-dire qu'il ne nous donne pas une sorte de capital de grâce, et puis il nous dit « débrouillez-vous avec ». Il nous donne sa grâce, et il reste avec nous mystiquement, parce qu'il est la grâce, il est la vie de notre vie, il est la source de la grâce. Si la très sainte Vierge Marie est appelée la mère de la grâce divine, c'est parce que la grâce divine, c'est le Christ. Regardez comment notre Dieu est généreux. voyez, nous avons dit telargente. Eh bien, notre Seigneur est généreux parce que non seulement il nous donne de perpétuer la quintessence des fêtes pascales dans nos mœurs et dans notre vie, mais encore, il nous accompagne et il nous précède dans notre état. Évidemment, il ne nous accompagne pas, il ne nous précède pas dans ce qui n'est pas notre état, mais nous en avons parlé une autre fois. Il nous précède dans notre état, c'est-à-dire que quand on regarde bien, pourquoi prêchons-nous cette doctrine ancienne et fondamentale des états? C'est parce que tous les états de vie chrétienne sont en quelque sorte des manifestations, des possibilités de vie du Verbe de Dieu. Si un état n'appartient pas au panneau, quand même assez, au panorama assez, quand même assez large, il y a le choix des états de vie chrétienne reconnus par l'Église, c'est que le Christ ne pourrait pas nous précéder dans cet état. Cela est à méditer quand on cherche, on est au début de sa vie, qu'on cherche un état justement. Le Christ nous attend dans notre état. Écoutez comment il nous y attend et quelle est la façon dont il nous y amène et il y précède. Tout d'abord, dans l'Évangile, il nous dit « Pax vobis ». Nous n'entendons ces paroles, mes très chers, ces paroles pontificales, mes très chers frères, puisque c'est l'évêque dit « Pax vobis » au lieu de « Dominus vobiscum » au début de la messe. Et c'est pour ça que ceux qui usurpent cette expression et qui disent à tout propos que la paix soit avec vous, etc., et avec votre esprit, faisons très attention, mes très chers frères, c'est une usurpation. Enfin, je referme la parenthèse. « Pax vobis », nous n'entendons ces paroles pontificales de notre Seigneur Jésus-Christ, comment ? Que les portes closes. En ce temps-là, le soir même du jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où les disciples étaient assemblés par crainte des Juifs étant fermées, Jésus vint et se plaçant au milieu d'eux, leur dit « La paix soit avec vous ». Les auteurs, lorsqu'ils commandent cet évangile, nous disent « Notre Seigneur ne serait pas venu, enfin c'est moi qui paraphrase évidemment, si au lieu d'être dans un lieu fermé, toute porte fermée, les apôtres étaient allés faire en groupe un pique-nique quelque part sur le mont des Oliviers ou ailleurs pour se regrouper, pour essayer de faire le point autour de merguez et d'une bonne bière bien fraîche. Attention, les apôtres, alors vous allez dire les disciples étaient apeurés, mais ce n'est pas ce que les auteurs voient. Les disciples étaient dans un lieu toute porte fermée. Et les auteurs nous disent, les pères de l'Église nous disent, le Christ ne vient et nous donne sa paix que lorsque toutes les portes de nos sens sont fermées au monde extérieur. Pax vobis. Pas tout le monde n'entend ces paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. Seulement ceux qui n'entendent plus la voix du monde. Pax vobis. Toute porte est enfermée. La dissipation, surtout volontaire, l'amour du monde, tout ceci est inimitié contre Dieu et rend le Christ muet. Il y a plein de raisons d'être dans la dissipation, d'être dans l'agitation, d'être dans le divertissement. Il n'y a qu'une seule raison, il n'y a qu'une seule façon d'entendre le Christ nous donner sa paix, c'est de fermer toutes les portes des sens au monde. Alors vous allez dire, oui, mais on ne peut pas être un ermite. Qu'on soit ermite ou que l'on soit un laïc dans un état de vie chrétienne dans le monde, non pas mondain, mais dans le monde, il nous faut fermer nos portes, les portes de nos sens aux sollicitations du monde. Cela se fait par diverses méthodes. Elle sera différente pour l'ermite que pour le religieux, que pour le clerc, que pour le laïc, mais il s'agit toujours de fermer les portes. Que vous les fermiez en les tirant avec vos mains, en les tirant avec un crochet, en les barricadant ou en mettant un verrou, peu importe, fermez-les. Fermez ces portes au monde si vous voulez que le Christ vous donne sa paix. Puisqu'il dit, je vous donne ma paix, non pas comme le monde la donne. Et ensuite, toutes ces portes étant fermées, la paix du Christ ayant été reçue, que nous dit-il? Il nous dit, s'adressant spécialement à nous qui vivons longtemps après ces événements de l'Évangile, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. La foi est un don de Dieu sans lequel on ne peut plaire à Dieu. Nous avons le témoignage des apôtres, nous avons l'existence de l'Église qui est en soi un miracle et sa persistance jusqu'à aujourd'hui. Nous avons tous les miracles du Christ, nous avons sous un certain rapport le témoignage même des Juifs apostats qui, d'une certaine manière, ne peuvent pas s'empêcher de rendre justice à l'Évangile. C'est pour cela que lorsque vous avez des mondains qui vous disent « Oui, mais on ne sait même pas si le Christ a existé, on ne sait même pas si c'est un personnage historique », il faut leur dire « Mais regardez, les Juifs le haïssent tellement, ils ne pourraient pas haïr une fiction ». Vous voyez, donc même eux, que Dieu les bénisse, mais que même eux rendent témoignage à notre foi. Et notre foi, au sens théologal du terme, est un don de Dieu. La foi, encore une fois, et là encore nous retrouvons cette notion, n'est pas une profession militante, mais une confession. Nous n'affichons pas notre foi avec fierté pour défier ceux qui, les mécréants, que sais-je, les mahométans, les autres, que sais-je. On peut affirmer n'importe quoi, on peut affirmer on peut être fier d'avoir un badge pour, je ne sais pas moi, un ticket pour le prochain Hellfest et le mettre devant le nez des bourgeois qui ont peur. Tout ça c'est une sorte de militance. Le chrétien ne va pas faire la même chose avec sa foi. La foi, qu'est-ce que c'est? C'est la confession de saint Thomas, mon Seigneur et mon Dieu. Mais même là, il faut préciser. On pourrait dire, face par exemple à un mahométan enragé qui blasphème, on pourrait dire « Moi, je crois que notre Seigneur Jésus-Christ est le Fils de Dieu, il est mon Seigneur et mon Dieu. » Alors, des fois, il faut le dire, si on est face à une occasion de témoigner, comme dit Saint-Pierre, il faut le dire, bien sûr. Mais il ne faut pas le dire sous une forme militante. Il faut le dire d'une façon qui ne soit pas démentie par nos mœurs et par notre vie. Voyez-vous, mes très chers frères, combien de gens font profession de christianisme face aux empiètements des mahométans. D'accord, c'est vrai, ils disent, regardez, le si ça et l'autre, toutes sortes de manifestations. Bon, n'entrons pas dans les détails. Oui, mais qu'est-ce qu'ils disent? Moi, je suis fier d'être chrétien. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils vont manger du saucisson le vendredi devant des mosquées, au point que ce soit un juif à la radio qui dise, oui, mais enfin, quand même, il y a quelque chose d'un peu étonnant, parce que d'habitude, les chrétiens ne mangent pas de viande le vendredi. Le malheureux, il ne sait pas qu'aujourd'hui, tout le monde fait n'importe quoi. Mais quelle honte, mes très chers frères, quelle honte que de proclamer à la face du monde, et avec un certain courage, c'est vrai, toujours plus, le Christ est mon Seigneur et mon Dieu, et de ne pas vivre dans la servitude, parce qu'il s'agit bien de cela, à ce Seigneur et à ce Dieu. S'il est notre Seigneur et s'il est notre Dieu, il faut lui obéir, mes très chers frères, et mettre ses maximes en pratique, envers et contre tout, et surtout contre le vieil homme. Vous voyez, il ne faut faire aucun compromis avec nos contemporains, avec même nos contemporains bien disposés, avec nos contemporains qui ont un certain esprit critique, qui ont les yeux en face des trous, etc. Si tant est que ça soit le cas, vraiment, et que ça serve à quelque chose. Il faut pratiquer avant tout les maximes de l'Évangile, qui sont la seule et unique manière de témoigner que le Christ est véritablement notre Seigneur et notre Dieu. Vous allez dire, mais c'est déjà pas mal, aujourd'hui c'est tellement peu, il y a tellement peu de gens qui oseraient dire le Christ est Dieu. Déjà, il y a si peu de monde que ça, parce qu'il y a tous les démons qui pourraient le dire. D'ailleurs, notre Seigneur ne supportait pas qu'ils le disent, puisque c'était presque une insulte dans leur bouche. Vous voyez, une sorte d'arrogance. Vous voyez, vous êtes le Fils de Dieu. Taisez-vous. Non, mes très chers frères. Déjà, tous les démons, qui sont plusieurs milliards dans le monde, confessent que le Christ est le Fils de Dieu. À quoi cela leur sert-il? Ils tremblent, dit saint Jacques, ça ne sert à rien. Bien sûr, la plupart des hommes ne le confessent plus ou le confessent mal. Mais à quoi bon le confesser parmi le petit nombre de ceux qui le confessent encore pour les bonnes raisons, qui le confessent encore, disons, si ce n'est pas pour les bonnes raisons? Ce n'est pas ceux qui disent « Seigneur, Seigneur », dit notre Seigneur, justement, qui hériteront le royaume des cieux, mais ceux qui font la volonté de mon Père. Or, quelle est la volonté de Dieu pour nous? C'est que nous soyons saints, que nous nous abstenions des souillures du monde. Donc, notre Seigneur, tout sens fermé, nous donne sa paix, nous donne la foi, de telle sorte que nous puissions triompher du monde. Et nous allons le voir dans un instant. La foi, encore une fois, c'est la confession de la divinité et de la seigneurie et du règne de notre Seigneur Jésus-Christ dans le monde en général, c'est-à-dire, mais dans notre vie en particulier. Si nous avons les mots de la foi et que nous n'avons pas les œuvres de la foi, mes très chers frères, notre foi est vaine. Alors justement, c'est notre troisième point, la victoire, dit saint Jean dans l'Épître, La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. On ne peut conserver la puissance des fêtes pascales que par la foi vive, c'est-à-dire, nous l'avons dit, celle qui porte des fruits. Que le monde ne règne plus en nous et la foi aura porté ses fruits, aura porté des fruits, encore faut-il persévérer, évidemment avec l'aide de la grâce de Dieu, mais encore faut-il porter des fruits. Le monde ne règne plus en nous dès lors que la foi triomphe de lui. Or, la racine du monde, c'est notre concupiscence, c'est le vieil homme. C'est cette déviation en nous-mêmes, suite fruit du péché originel, qui bien souvent coïncide avec le vieil homme. Le vieil homme, qu'est-ce que c'est? C'est cette tendance en nous à nous identifier à ce que nous ne sommes pas, ce que nous ne sommes plus grâce au baptême. On ne peut conserver la puissance de Pâques, de la résurrection de notre Seigneur, que par la foi vive, c'est-à-dire une foi qui porte des fruits, une foi qui porte des fruits en premier lieu par, non pas par la publication de toutes sortes de livres, non pas par la militance, non pas par le collage d'affiches, non pas par de toutes sortes d'émissions qu'on peut faire ici ou là, mais par une vie mortifiée. Une vie mortifiée dans le cadre de son état. Évidemment, si je suis père de famille et que je me mortifie au point de ne plus m'occuper de ma famille, évidemment, je me mortifie mal. Vous voyez ? Si je suis un religieux et que je me mortifie si légèrement qu'il me reste encore plein de temps pour faire toutes sortes d'autres choses, je me mortifie mal. Il faut se mortifier selon son état, mais toujours, c'est l'application de la puissance de la résurrection du Christ à notre vie qui produit cette mortification selon notre état. Les désirs charnels mondains, les désirs mondains, les désirs charnels, les désirs du vieil homme, tout ceci doit être mortifié de telle sorte que nous puissions triompher du monde par cette foi don de Dieu. Cette foi qui est tout ce que nous avons dans le monde en attendant que nous soyons réunis au bienheureux dans la béatitude. Écoutez ce que nous dit un auteur. Cette excellente vertu, vertu signifie force, hein, il parle de la foi. Cette excellente vertu, cette excellente force, puissance, cette excellente vertu qui découvre les biens invisibles et éternels qui sont promis aux enfants de Dieu, nous les fait préférer aux biens visibles et passagers du monde et nous encourage à tout souffrir pour les obtenir. Jusqu'ici la citation. Bien souvent, lorsqu'un chrétien à tendance un peu militante, entend cette parole de Saint Jean, « La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi », il s'imagine que c'est simplement la foi, la foi, c'est-à-dire le fait de croire tout ce que nous enseigne l'Église. C'est déjà pas mal, évidemment, mais c'est très peu. Il nous faut comprendre que la foi, c'est ce qui, bien sûr, grâce à notre adhésion à ce que enseigne l'Église, la foi, c'est ce qui nous fait contempler en esprit, mais avec certitude, les biens à venir qui sont promis, mais qui sont invisibles et insensibles, imperceptibles au sens. Donc oui, la foi, ce n'est pas seulement le fait de croire que le Christ est le Fils de Dieu. C'est le fait de tout, c'est la puissance qui nous fait la foi ici, plus que le fait de croire que le Christ est le Fils de Dieu, c'est la puissance même du Fils de Dieu qui nous fait préférer aux biens visibles, les biens invisibles. C'est-à-dire que c'est une mortification ordonnée, dans le sens où nous ne nous mortifions pas simplement comme un champion mortifie sa paresse pour pouvoir gagner la course. Nous nous mortifions parce que nous savons que si nous ne nous mortifions pas, nous n'obtiendrons pas la récompense de la vie éternelle. Si nous ne pardonnons pas à ceux qui nous ont offensés, nous n'obtiendrons aucun pardon. Si nous suivons notre volonté propre, la volonté de Dieu pour nous ne se réalisera pas. Et ainsi de suite. Vous voyez, la foi, c'est le fait de croire, c'est un don de Dieu, c'est le fait de croire tout ce que nous enseigne l'Église, et c'est la puissance qui fait que nous préférons les biens invisibles aux biens visibles. Je reprends la citation. Il n'est pas concevable combien grande est la force que la foi nous donne pour résister aux ennemis de notre salut, quelque faible que nous soyons. Elle nous rend intrépides et invincibles par l'union que nous avons avec notre Seigneur Jésus-Christ, comme étant les membres de son corps. Et elle nous fait nous soutenir en toutes nos tentations, Et en tous nos combats, et elle nous fait nous souvenir, pardon, en toutes nos tentations et en tous nos combats, que ce n'est pas nous, mais Jésus-Christ en nous, et toute la puissance du Père qui combat pour nous. Vous voyez, la foi, ce n'est pas simplement quelque chose que nous, nous avons contre quelque chose. Contre les hommes, contre les démons, contre la chair, contre le monde. La foi, c'est aussi ce qui nous fait nous souvenir que dans toutes nos tentations, dans tous nos combats, ce n'est pas nous, mais Jésus-Christ en nous et toute la puissance du Père éternel qui combat pour nous. Si nous nous imaginons que c'est nous-mêmes qui, par nos propres forces, par l'usage de la foi, nous allons plaire à Dieu, nous passons complètement à côté de la vertu, de l'efficace de la foi. C'est la foi nous fait comprendre que si elle est réelle en nous, c'est parce que notre Seigneur Jésus-Christ et la puissance du Père qui l'a ressuscité combat en nous et pour nous, contre nous. On est loin d'une foi qui est une étiquette, un drapeau dont on se drape et que l'on agite au nez des gens qu'on va faire enrager. Je reprends la citation. « Le démon rugit, dit saint Pierre, ne pouvant supporter la faiblesse qu'il sent contre les armes de la foi, les armes que la foi de Jésus-Christ rend si puissantes et si courageuses contre lui. » Pourquoi le diable nous attaque? Pourquoi est-ce que le diable rôde pendant le carême? Pourquoi est-ce qu'il rôde pendant les fêtes de Pâques? Pourquoi est-ce qu'il rôde pendant le temps pascal? Pourquoi est-ce qu'il rôde pendant le temps de la Pentecôte? Pourquoi est-ce qu'il rôde autour de nous pendant le temps après la Pentecôte? C'est parce qu'il est furieux de se sentir si impuissant face aux armes que nous procure et que consiste la foi, dans lesquelles consiste la foi. Ces armes sont tellement puissantes et tellement courageuses contre lui qu'il est enragé et qu'il est autour de l'autre côté de la muraille dans laquelle nous nous protégeons et il rugit cherchant qui dévorer. Citation. Nous serions sans aucun doute incapables de nous soutenir contre un si puissant ennemi si nous n'étions pas armés d'une foi vive comme d'un bouclier impénétrable. Et l'effet de cette foi qui opère par la charité est de nous donner la force d'aimer les biens que le monde ne connaît pas et de les préférer à ceux que le monde estime. Toute l'efficace de la foi qui se manifeste par la grâce efficace de Dieu dans nos mœurs et dans notre vie, après que nous ayons célébré les fêtes de Pâques, c'est l'oraison, toute cette efficace, mes très chers frères, tend à nous faire, à nous donner la force d'aimer les biens que le monde ne connaît pas et de les préférer à ceux que le monde estime. Et ces biens que le monde ne connaît pas, ce n'est pas le règne du Christ-Roi demain dont je serai plus ou moins ministre, commissaire, éventuellement bourreau. Non, non, c'est les biens éternels. Laissez les choses temporelles à Dieu, c'est lui qui les règle. Regardez aux choses éternelles. De toute façon, on n'arrive jamais à quoi que ce soit d'une façon temporelle si on n'a pas les yeux braqués univoquement sur les choses éternelles. La foi, mes très chers frères, nous ne l'avons vive que dans la mesure où elle se manifeste par son effet. L'effet de cette foi qui opère par la charité est de nous donner la force d'aimer les biens que le monde ne connaît pas et de les préférer à ceux que le monde estime. Alors mes très chers frères, prions de tout notre cœur la générosité divine, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de la grâce efficace, que, arrivé au terme des fêtes pascales, eh bien, nous puissions en perpétuer la quintessence dans nos mœurs et dans notre vie. Par notre Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Ainsi soit-il.